Chapitre 9. Nouvelles de Mannheim. La curiosité de Lady Janet était alors surexcitée. Pressée d'expliquer qui pouvait bien être la dame mystérieuse dont il était question dans sa lettre, Julian, pour toute réponse, avait indiqué du regard la fille adoptive de Lady Janet. Priée par Lady Janet de dire comment sa fille adoptive pouvait être mêlée dans cette affaire, il avait répondu qu'il devait garder le silence tant que Mademoiselle Rosemary serait dans la chambre. « Je déteste tous ces mystères !» s'écria Lady Janet. « Et quant au secret, je les considère comme une des formes de la mauvaise éducation. Des gens dans notre position sociale doivent être au-dessus de la manie de chuchoter dans les coins. Mais s'il vous faut absolument votre mystère, je puis vous offrir la bibliothèque pour confessionnal. Venez !» Julian suivit sa tante à contre-cœur. Oui, il y avait un mystère, et il était bien embarrassé, se voyant mis en demeure de le révéler ainsi sur le champ. Lady Janet s'installa dans son fauteuil et se préparait à questionner et à requestionner son neveu, quand un nouvel obstacle apparut à l'autre bout de la bibliothèque, sous la forme d'un valet de pied portant un message. Une des voisines de Lady Janet avait pris rendez-vous avec elle pour la conduire à la réunion d'un certain comité qui se rassemblait ce jour-là. Le valet de pied annonça que la voisine, une vieille dame, attendait à la porte dans sa voiture. Mais Lady Janet mit l'obstacle de côté sans hésiter un moment. Elle renvoya le valet, lui commandant de conduire cette dame dans le salon et de lui expliquer qu'elle était inopinément retenue, mais que Mademoiselle Rosemary allait la trouver à sa place. Puis elle se tourna vers Julian et lui dit de son air le plus sarcastique « Serait-il dans vos convenances que Mademoiselle Rosemary sortît de la maison? Est-ce assez qu'elle ne soit plus dans la chambre ?» Mais Julian répondit gravement « Il serait vraiment peut-être aussi bien que Mademoiselle Rosemary fût hors de la maison. » Lady Janet bondit et retourna à la salle à manger. « Ma chère Grace, dit-elle, vous aviez l'air souffrant tout à l'heure quand je vous ai vue assoupie sur le canapé. Un tour en voiture au grand air vous ferait du bien. » Mon ami est venu me prendre pour me conduire à la réunion du comité. Je lui ai fait dire que j'étais retenue et je vous serais très obligée si vous vouliez bien vous y rendre à ma place. » Merci parut un peu troublé. « Est-ce que votre seigneurie veut parler du comité de l'asile des convalescents du Bon Samaritain ? » dit-elle. « Mais on doit y décider aujourd'hui l'adoption d'un plan proposé pour les nouveaux bâtiments. » « Je ne puis certainement prendre la liberté de voter à votre place. »« Vous voterez aussi bien que moi, » répondit la vieille dame. « L'architecture est un art perdu. Vous n'y connaissez rien, je n'y connais rien, les architectes n'y connaissent rien. Un plan est aussi mauvais qu'un autre. Votez comme je voterai, avec la majorité. Le pauvre docteur Johnson l'a dit, criez avec ceux qui crient le plus fort. Allons, ne faites pas attendre le comité. » Horace se hâta d'ouvrir la porte à Merci. « Combien resterez-vous de temps dehors ? » murmura-t-il à voix basse. « J'ai 1 million de choses à vous dire et ils nous ont interrompus. »« Je serai revenu dans 1 heure. »« Vous me trouverez ici à vous attendre. » Merci lui pressa la main et partit. Lady Janet se retourna vers Julian. « Eh bien, dit-elle, rien n'enchaîne votre langue maintenant. Grace est dehors, que ne commencez-vous ? « Est-ce qu'il s'agit d'Horace ?»« Pas le moins du monde. Je suis seulement un peu embarrassée. »« Embarrassée ? À quel propos ? » ?»« J'ai peur que vous n'ayez causé quelque ennui à cette charmante créature en la faisant sortir juste en ce moment. » Horace le regarda de travers. « Quand vous dites cette charmante créature, demanda-t-il brusquement, je suppose que vous voulez parler de Mademoiselle Rosemary ?»« Certainement, répondit Julian. » « Pourquoi non ?» Lady Janet s'interposa. « Doucement, Julian, dit-elle, Grace ne vous a été jusqu'ici présentée que comme ma fille adoptive. Et il me semble être grandement temps, ajouta Horace avec hauteur, que je la présente comme ma fiancée. » Julian regarda fixement Horace. Il pouvait à peine en croire ses oreilles. « Votre femme ? » répéta-t-il avec une explosion de désappointement et de surprise. « Oui, ma femme, répliqua Horace, nous devons nous marier dans 15 jours. »« Puis-je vous demander, ajouta-t-il avec une humilité pleine de colère, si vous n'approuvez pas ce mariage ? Lady Janet s'interposa encore une fois. « Vous êtes fou, Horace, » dit-elle. « Julien ne peut que vous féliciter, naturellement. » Julien répéta ces mots comme un écho. « Oh, oui, oui, je vous félicite, naturellement. » Lady Janet revint alors au principal objet de l'entretien. « Maintenant que vous voilà parfaitement d'accord l'un et l'autre, » dit-elle, « parlons d'une personne qui me semble être devenue quelque peu étrangère à la conversation depuis quelques minutes. Je veux parler de la dame mystérieuse de votre lettre. Julien, nous sommes seuls comme vous le désirez. Essayez, mon révérend neveu, de soulever le voile qui la cache aux yeux des mortels. Rougissez si vous voulez ou si vous pouvez. Serait-ce la future madame Julien Gray ?»« C'est une personne qui m'est tout à fait étrangère, » répondit tranquillement Julien. « Tout à fait étrangère, mais vous m'avez écrit que vous vous intéressiez beaucoup à elle. »« Bon, reprit Julien, vous ne vous y intéressez pas moins que moi. » Les doigts de Lady Janet battirent une marche au tambour sur la table. « Ne vous avais-je pas averti, Julien, que je détestais les mystères ? Voulez-vous ou ne voulez-vous pas vous expliquer ?» Avant qu'il fût possible à Julien de répondre, Horace se leva. « Peut-être suis-je sur la voie, » dit-il. Julien lui fit signe de se rasseoir. « Vous n'êtes pas sur la voie, » répondit-il, « et je vous dis maintenant, à vous, futur mari de Mademoiselle Rose Béret, que vous êtes plus intéressé que personne à m'écouter. » Horace reprit sa place avec un air de surprise et de mélancolie. Julien s'adressa à Lady Janet. « Vous m'avez souvent entendu parler, commença-t-il, de mon vieil ami, de mon vieux camarade de collège, John Cressingham ?»« Oui, le consul d'Angleterre à Mannheim. »« Lui-même, quand je suis revenu de province, j'ai trouvé parmi ma correspondance une longue lettre de lui. Je l'ai apportée avec moi et je me propose de vous lire certains passages qui contiennent une histoire très extraordinaire. » Racontée plus simplement et d'une façon bien plus vraisemblable que je ne pourrais vous la raconter moi-même. Cela sera-t-il très long ? Demanda Lady Janet, regardant avec quelque inquiétude les feuilles de papier recouvertes d'une écriture serrée que son neveu étendait devant lui. Horace, à son tour, fit une question. Vous êtes bien sûr que cela m'intéresse ? Demanda-t-il. Le consul à Mannheim est absolument étranger. J'en suis sûr, répliqua gravement Julien. Ce n'est pas inutilement que je mettrai à contribution la patience de ma tante et la vôtre. Et vous allez le voir si vous voulez bien me faire la grâce de m'écouter. Et prenant la lettre du consul, il lut. Je n'ai pas la mémoire des dates, mais je m'en souviens, il y a au moins 3 mois que j'ai été informé de la présence d'une malade anglaise dans l'hôpital de cette ville. En ma qualité de consul d'Angleterre, je devais prendre mes informations sur son compte et lui témoigner mon intérêt. Je me rendis donc le même jour à l'hospice et l'on me conduisit au chevet du lit. La malade était une femme, jeune et qui, bien portante, doit être jolie à ce que je crois. Quand je la vis pour la première fois, je m'écriai « Mais c'est une femme morte !» Elle avait la tête entourée de bandages et je demandai quelle blessure elle avait reçue. J'appris alors que la pauvre créature avait assisté, personne ne savait ni pourquoi ni comment, à une escarmouche ou à une attaque de nuit entre les Prussiens et les Français, et que la blessure qu'elle avait reçue à la tête provenait d'un éclat d'obus allemand. Horace, qui jusque-là était resté nonchalamment étendu sur le dossier de son fauteuil, se redressa tout à coup et s'écria « Dieu du ciel, serait-ce cette femme que j'ai vue abandonner comme morte dans la chaumière française ?» « Il m'est impossible de vous le dire, » répliqua Julien. « Écoutez la suite. La lettre du consul répondra peut-être pour moi. » Il continua sa lecture. On avait fait, en effet, courir le bruit que la blessée était morte et que, dans la retraite, les Français l'avaient abandonnée. On l'a trouvée sur un lit, dans une chaumière occupée par le directeur de l'ambulance prussienne. « Ignatius Wetzel !» s'écria Horace. « Ignatius Wetzel !» répéta Julien après avoir jeté un coup d'œil sur la lettre. « C'est la même, c'est elle, » dit Horace. « Lady Janet, cela nous intéresse vraiment beaucoup. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit de ma première rencontre avec Grace ? Et sans doute, vous avez dû en apprendre depuis lors beaucoup plus par Grace elle-même. » Elle déteste de se reporter à cette partie de son voyage sur le continent, répliqua Lady Janet. Elle m'a dit seulement qu'elle avait été arrêtée sur la frontière et qu'accidentellement, elle s'était trouvée dans la compagnie d'une autre Anglaise, tout à fait étrangère à elle. Naturellement, je lui ai fait quelques questions et je suis demeurée frappée d'horreur en l'entendant raconter qu'elle avait vu cette femme tuée par un obus prussien à ses côtés. Ni elle ni moi n'avons eu depuis lors la moindre envie de revenir sur ce sujet. Vous avez parfaitement bien fait, Julian, de garder le silence tandis qu'elle était dans cette chambre. Je comprends tout maintenant. Grace, à ce que je pense, aura prononcé mon nom devant sa compagne de voyage. Cette femme, maintenant, a besoin de secours et s'adresse à moi par votre entremise. Je lui viendrai en aide, mais il ne faut pas qu'elle se présente ici avant que j'aie préparé Grace à la revoir vivante. « Je n'en suis pas sûre, » dit Julian à voix basse sans regarder sa tante. « Que voulez-vous dire? Est-ce que le mystère n'est pas fini ?»« Je ne l'ai pas même encore abordé. Continuons la lettre de mon ami le consul. » Après un minutieux examen du prétendu cadavre, le chirurgien prussien arriva à cette conclusion que la blessée avait été mal examinée, qu'une suspension de la vie avait été prise dans le tumulte de la retraite des Français pour un cas de mort. Son intérêt professionnel s'éveilla et il voulut tenter une expérience. Elle fut couronnée d'un succès complet. L'opération terminée, il soigna lui-même la malade et la transféra ensuite à l'hospice le plus proche, celui de Mannheim. Il était forcé de reprendre son service à l'armée, il laissa sa malade dans la situation où je l'ai trouvée, privée encore de connaissance sur un lit. Ni lui ni l'administration ne savaient quoi que ce soit sur le compte de la blessée. On n'avait trouvé aucun papier sur elle. Tout ce que purent faire les médecins, quand je leur demandai les moyens de me mettre en rapport avec les amis de cette femme, fut de montrer son linge marqué à son nom. Je ne quittai l'hospice qu'après avoir inscrit ce nom sur un des feuillets de mon portefeuille. Ce nom était « Merci Merrick ». Lady Janet tira son portefeuille. « Laissez-moi prendre ce nom en note, » dit-elle. « Je ne l'ai jamais entendu et je pourrais l'oublier. » « Continuez, Julian. » Dans ces conditions, je n'avais plus qu'à attendre qu'on m'avertît à l'hospice dès que la blessée serait en état de parler. Plusieurs semaines se passèrent sans que je reçusse aucun avis des médecins. Je retournai aux informations, j'appris que la fièvre s'était allumée dans les veines de cette pauvre créature qui subissait de cruelles alternatives d'accablement et de délire. Dans ces moments de délire, le nom de votre tante, Lady Janet Roy, lui échappait très souvent. Le reste de ses divagations était tout à fait inintelligible pour les gens qui l'entouraient. Une ou deux fois, j'ai songé à vous écrire et à vous prier de parler à Lady Janet. Mais comme à cette époque, les médecins me disaient que les chances de vie et de mort se balançaient presque également pour leurs malades, je me décidai à attendre. À quoi bon vous importuner si cela n'était pas nécessaire ? Vous êtes meilleur juge que personne, dit Lady Janet, mais je ne vois pas en quoi cette partie de votre histoire peut m'intéresser autant que la première. Justement ce que j'allais dire, reprit Horace. C'est triste sans doute, mais qu'est-ce que nous avons à voir dans tout cela ? Attendez, répondit Julian, et vous verrez. Enfin, je reçus un avis de l'hospice m'informant que Mercy Merrick était hors de danger et capable, quoiqu'elle fût encore très faible, de répondre aux quelques questions que je pourrais lui adresser. En arrivant à l'hospice, on me demanda, ce qui me surprit un peu, de faire ma première visite au médecin en chef dans son appartement particulier. « Je crois qu'il est bon, me dit le docteur, de vous prévenir avant que vous ne voyiez la blessée. » Veuillez faire grande attention en lui parlant à ne pas l'irriter. Ne lui laissez jamais voir la moindre surprise, ne manifestez pas le moindre doute si elle vous dit des choses extravagantes. Nous ne sommes pas d'accord ici à son sujet. Les uns, et je suis de ce nombre, ne sont pas sûrs qu'elle ait retrouvé l'usage de son esprit. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'elle soit folle, elle est absolument douce et inoffensive. Nous croyons néanmoins qu'elle est sous le coup d'une certaine illusion tendant à la folie. Pesez dans votre esprit l'avertissement que je viens de vous donner. Maintenant, allez et jugez par vous-même. » J'obéis avec un peu d'appréhension et de surprise. La malade, quand j'approchai de son lit, me parut bien abattue, mais, autant que je pus en juger, elle semblait en pleine possession de sa raison. Son ton et ses manières étaient incontestablement le ton et les manières d'une femme du monde. Après m'être rapidement présenté moi-même, je l'assurai que je serais heureux, comme homme et comme magistrat représentant notre pays commun, de lui être utile. Remarquez qu'alors, je l'appelai naturellement par le nom que j'avais vu marqué sur ses vêtements. Mais au moment où ces mots, « Mademoiselle Méric », sortirent de mes lèvres, une expression sauvage brilla dans ses yeux. Elle s'écria avec colère « Ne m'appelez pas de ce nom odieux, ce n'est pas le mien. Tout le monde ici me persécute en m'appelant Merci Méric et quand je me fâche, on me montre ses vêtements. Quoi que je dise ou quoi que je fasse, on s'obstine à croire que ce sont les miens. Ne faites pas comme tout le monde si vous voulez que nous soyons amis. » Je me rappelai ce que ce médecin m'avait dit. Je fis quelques excuses et je réussis à la calmer. Sans revenir sur ce sujet irritant, je lui demandai quels étaient ses projets et je lui donnai l'assurance qu'elle pouvait avoir recours à mes services et à mes soins. « Pourquoi voulez-vous savoir quels sont mes projets ? » demanda-t-elle avec méfiance. Je lui répondis en lui rappelant que je remplissais les fonctions de consul d'Angleterre et que mon devoir comme mon désir était de lui venir en aide. « Vous pouvez m'être d'un très grand secours, » dit-elle avec empressement. « Trouvez donc la vraie Merci Méric. » En même temps, le même regard vindicatif illuminait de nouveau ses yeux et une vive rougeur se répandait sur ses joues si pâles. Je m'abstins de manifester aucune surprise et je lui demandai qui était Merci Méric. « Une méprisable créature, et cela de son propre aveu, » me répondit-elle. « Comment puis-je la trouver ? » demandai-je aussitôt. « Cherchez une femme vêtue de noir, avec la croix de Genève au bras. Elle est infirmière dans les ambulances françaises. » Qu'a-t-elle fait ? « J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mes vêtements, Merci Méric me les a pris. » « Comment savez-vous que Merci Méric les a pris ? » ?»« Et qui donc aurait pu les prendre si ce n'est elle ? Me croyez-vous ou ne me croyez-vous pas ?» Son irritation croissante m'effraya. Je lui promis de faire des recherches pour retrouver Merci Méric. Elle se retourna satisfaite sur son oreiller. « Voilà un brave et digne homme, » dit-elle. « Revenez me dire quand vous l'aurez fait arrêter. » Telle fut ma première entrevue avec la malade anglaise à l'hospice de Mannheim. Il est inutile de vous dire que je ne croyais pas du tout à l'existence de la personne absente qu'elle m'avait désignée comme une infirmière. Cependant, je crus devoir faire quelques recherches et je m'adressai au chirurgien Ignatius Wetzel, dont la résidence actuelle était connue de ses amis de Mannheim. Je lui écrivis et sa réponse m'arriva promptement. Il me racontait par écrit qu'après l'attaque de nuit qui avait rendu les Prussiens maîtres de la position des Français, il était entré dans la chaumière occupée par l'ambulance française. Il y avait trouvé quelques blessés français abandonnés, mais il n'avait vu aucune personne les soignant qui ressemblât à l'infirmière en noir et la croix rouge au bras que désignait la malade. La seule personne vivante qui se trouvait en cet endroit était une jeune dame anglaise en costume de voyage gris qui avait été arrêtée sur la frontière et qui fut remise sur sa route pour retourner en Angleterre par le correspondant militaire d'un journal anglais. « C'était Grace, » dit Lady Janet. « Et j'étais le correspondant militaire, » ajouta Horace. « Encore quelques mots, » dit Julian, « et vous comprendrez pourquoi j'ai réclamé votre attention. » Il reprit la lettre pour la dernière fois et se remit à lire. Au lieu de me présenter moi-même à l'hospice, je fis connaître par un billet à notre blessé ma tentative pour retrouver cette prétendue infirmière. Je n'entendis plus parler de celle que je continuais à appeler Merci Méric. Ce n'est qu'hier que j'ai reçu une autre invitation à la visiter. Elle était alors suffisamment remise pour réclamer son élargissement et elle annonçait son intention de retourner immédiatement en Angleterre. Le médecin en chef, se sentant une certaine responsabilité, avait envoyé vers moi. On ne pouvait cependant retenir la malade sous prétexte qu'elle n'était pas en état d'être mise en liberté. Je vous ai dit qu'il y avait sur son cas divergence d'opinion parmi les médecins. Le médecin en chef s'était donc borné à me donner avis de ce qui arrivait. Il voulait remettre l'affaire entre mes mains. En voyant la malade pour la seconde fois, je la trouvai triste et réservée. Elle ne fit point difficulté d'attribuer le peu de succès de mes démarches pour retrouver l'infirmière à mon manque de zèle pour ses intérêts. Je n'avais, de mon côté, aucune autorité pour la retenir. Je lui demandai simplement si elle avait assez d'argent pour payer son voyage. Sa réponse m'apprit que l'aumônier de l'hospice avait parlé de sa situation abandonnée dans la ville et que les Anglais résidant à Mannheim avaient réuni par souscription une petite somme d'argent pour donner à la pauvre femme les moyens de retourner dans son pays natal. Satisfait sur ce point, je lui demandai aussitôt si elle avait des amis en Angleterre. « J'ai une amie, répondit-elle, une seule qui m'attend, c'est Lady Janet Roy. » Vous pouvez vous imaginer ma surprise alors. Je trouvais tout à fait inutile de lui faire aucune question pour savoir comment elle était arrivée à connaître votre tante et comment votre tante l'attendait. Évidemment, mes questions l'offensaient. Elle les recevait d'un air boudeur. Dans ces circonstances, sachant à quel point je pus me fier à votre humanité et à votre sympathie pour l'infortune, je me suis décidé, après mûre réflexion, à assurer du moins le salut de la pauvre créature quand elle arrivera à Londres, en lui donnant une lettre pour vous. Vous écouterez ce qu'elle vous dira, et vous serez bien plus à même que moi de découvrir si réellement elle a quelque droit à se réclamer de Lady Janet Roy. Un dernier renseignement qu'il est peut-être bon d'ajouter, et je fermerai cette lettre démesurément longue. À ma première entrevue avec elle, je me suis abstenu, comme je vous l'ai déjà dit, de l'irriter par aucune question au sujet de son nom. À la seconde, cependant, je résolus de l'interroger. Comme il lisait ces derniers mots, Julian se mit en garde contre un mouvement subit de la part de sa tante. Lady Janet s'était doucement levée de son siège et était passée derrière lui, impatiente d'achever la lecture de la lettre du consul par-dessus l'épaule de son neveu. Julian s'en aperçut assez à temps pour déjouer l'intention de Lady Janet en plaçant sa main sur les deux dernières lignes de la lettre. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda brusquement la tante. « Vous pouvez parfaitement lire la fin de la lettre vous-même, Lady Janet, » répliqua Julian. « Mais avant que vous ne le fassiez, il faut absolument que je vous prépare à une très grande surprise. Remettez-vous. Venez, il vaut mieux que je lise moi-même. » Je regardai cette femme bien en face et je lui dis « Vous avez nié que le nom marqué sur les vêtements que vous portiez quand vous êtes venu ici fût votre nom. Si vous n'êtes pas Mercy Merrick, qui êtes-vous » Immédiatement, elle répondit « Mon nom est… » Julian retira sa main. « Je ne lis plus, dit-il. Lisez, ma tante. » Lady Janet recula vivement avec une violente exclamation de surprise. Horace se leva et accourut. « Qu'un de vous me le répète » cria-t-elle. « Quel nom a-t-elle donné ?» Julian lui dit « Grace Roseberry ».